Alors, ce titre que vous avez, Julien, est énigmatique, volontairement énigmatique. Les lecteurs de Foucault y ont peut-être deviné une référence à peine cryptée au titre des derniers cours de Foucault au Collège de France, « Le gouvernement de soi et des autres ». Le terme de gouvernement chez Foucault, je rappelle rapidement, ne désigne pas, du moins dans sa pensée tardive, une structure étatique ou institutionnelle, mais une manière de se conduire, de conduire les autres. Cela renvoie donc au gouvernement de sa propre vie, selon une acception un peu archaïque aujourd'hui. Alors, malgré cette allusion au gouvernement de soi, je ne vais pas chercher à éclairer les rapports entre Foucault et Sartre. Je vais plutôt tenter d'analyser la pratique autobiographique de Sartre comme une technique de soi, c'est-à-dire comme un rapport de soi à soi, dont les visées sont à la fois éthiques et politiques. Pour reprendre une autre expression de Foucault, s'il y a quelque chose comme un souci de soi chez Sartre, je voudrais montrer qu'il est inséparable, bien sûr, de la question du communisme, ce qui est une évidence, même si la critique contemporaine tend un peu à s'éloigner de cette problématique. Mais ce souci de soi est aussi inséparable du thème de l'amitié, et ça me semble un peu moins souvent souligné. Donc, à travers la technique de soi qui est l'écriture autobiographique, il me semble que ça, au tout début des années 60, s'emploie non seulement à retracer son propre itinéraire politique, mais à se transformer lui-même à travers l'expérience conjointe de l'amitié et du communisme. Une autre précaution avant de vous lire ce texte, je ne suis pas un sartrien, je ne suis pas un sartrologue, je ne prétends pas renouveler la lecture de l'œuvre de Sartre. Je voudrais plus modestement essayer d'en restituer la cohérence, notamment la cohérence philosophique, en lisant ce que j'appelle le cycle autobiographique de Sartre, c'est-à-dire les mots, la préface à Aden Arabi et le tombeau de Merleau-Ponty, en rapport avec la critique de la raison dialectique qui est publiée en 1960 et qui semble éclairer certains aspects de la pratique autobiographique de Sartre. Et ce faisant, j'ai aussi, je pense, ramené un peu Sartre dans le contemporain à travers la question d'amitié, dont je vous rappelle qu'elle est présente dans la philosophie contemporaine, notamment dans une certaine philosophie contemporaine post-communiste chez Blanchot, bien sûr, qu'évoquait Julien hier, chez Jean-Luc Nancy, chez Jacques Derrida, chez Giorgio Agamben, mais aussi dans une certaine politique radicale qu'évoquait Anne Roche, par exemple avec le comité invisible à nos amis. Cette question d'amitié se noue à nouveau aujourd'hui au thème du communisme, du post-communisme, et d'une certaine manière, je voudrais généalogiquement rappeler que chez Sartre, il y avait déjà quelque chose comme une conjonction entre amitié et communisme. Allons-y. La révolution russe fut l'un des premiers souvenirs politiques du jeune Sartre, dont le hasard a voulu qu'il naisse en 1905, l'année de la répétition générale de l'insurrection d'octobre, selon la formule de Lénine. Si l'essentiel des mots se tient entre la première révolution russe et le premier conflit mondial, c'est néanmoins en 1917, abruptement, que se clôt le récit d'enfance, à la veille du remariage de la mère et du déménagement de la famille à La Rochelle. Sartre prend donc soin de situer son premier âge entre deux révolutions, l'une écrasée, 1905, l'autre victorieuse, 1917, inscrivant résolument le pacte de lecture de son autobiographie sous le signe du communisme. Dans la préface destinée à la traduction russe des mots, qui paraît à l'automne 1964, quelques mois seulement après la version française, Sartre insiste sur cette séquence historique dont les bornes sont indistinctement celles de son enfance et de l'avènement du communisme. Je cite un assez long passage de cette préface à la traduction russe. « Les mots risquent de déplaire », écrit Sartre. « J'y raconte une enfance qui paraîtra fort étrangère aux hommes de mon âge, c'est-à-dire aux sexagénaires et aux plus jeunes proprement exotiques ou impensables. » Mes contemporains soviétiques sont nés au moment de la première révolution russe. Ils avaient 12 ans en 1917. Ces premières années prises entre deux grands mouvements de masse, dont le premier fait ressortir l'autre, ils ne les ont certainement pas vécues comme nous. La grande affaire de notre vie aura été votre révolution. Nous ne l'avons pas vécue directement, mais de loin, avec retard, avec un certain provincialisme. Mais cette confrontation permanente des hommes de l'Occident avec les grands événements du RSS suffit à prouver que le monde n'a qu'une seule histoire qui révèle à chacun l'une ou l'autre de ses faces. mais qui nous unit tous dans la mesure même où elle divise et oppose. Évidemment, Sartre n'est pas dupe des contretemps et des retards de cette histoire universelle qui totalise la multiplicité des histoires singulières. Les révolutions qui secouèrent la Russie en ouverture du siècle ne modifièrent pas les jeux des petits Parisiens du jardin du Luxembourg, pas plus que les Soviets ne se glissèrent parmi les rois et les chevaliers dans les rêveries des écoliers français. C'est pourquoi les mots, au lieu de fondre l'individuel et le collectif, le proche et le lointain, en une continuité sans faille, ne cessent de creuser le décalage entre la France de la Troisième République et les révoltes de Saint-Pétersbourg, de marquer le contraste entre la cérémonie de l'enfance, à travers laquelle s'impose à Sartre la religion de la littérature, et la vérité politique du siècle, qui l'amènera au début des années 50 à entreprendre de raconter sa vie sous la forme d'une autocritique. Formé par son grand-père, qui lui a inculqué des croyances de notre siècle, lui imposant des idées en cours sous Louis-Philippe, Sartre affirme avoir pris le départ avec un handicap de 80 ans. Et comme le suggère sa conversion tardive au communisme, des décennies lui seront nécessaires pour se faire, enfin, le contemporain de la prise du palais d'hiver. Dans l'autobiographie de Sartre, la date de 1917 prend une dimension allégorique. Elle désigne bien sûr la fin de l'enfance, mais plus essentiellement l'événement politique à l'aune duquel sa vie entière, bien au-delà du roman familial, se trouve mesurée et interprétée. En se découvrant comme un universel singulier, c'est-à-dire comme un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui, Sartre aurait enfin rattrapé son retard et rejoint l'aventure communiste. C'est du moins ici qu'il présentera le projet des mots à Simone de Beauvoir. Je voulais écrire toute ma vie d'un point de vue politique, c'est-à-dire mon enfance, ma jeunesse et mon âge mûr, en lui donnant ce sens politique d'arrivée au communisme. Au-delà des mots, la question communiste traverse l'ensemble du cycle autobiographique de Sartre, dont font partie la préface d'Aden Arabi de Paul Nizan, rééditée en 1960, et Merleau-Ponty vivant qui paraît dans les temps modernes à la mort de ce dernier en 1961. Ces autobiographies obliques, médiatisées par le portrait d'un disparu, qui seront réunies dans le quatrième volume des Situations en 1964, l'année même de l'apparition des mots, mettent en scène les successifs décalages de Sartre face à la politique, esquissant ce que Merleau-Ponty appelait, à propos de son ami, une sorte de communisme du dehors. Si la critique de la raison dialectique est, selon Sartre, un ouvrage écrit contre les communistes tout en étant marxiste, il faut en dire autant du cycle autobiographique qui donne voix à un communisme oppositionnel. En 1959, quand François Maspero lui demande de préfacer une réédition des Chiens de garde, Sartre propose plutôt d'introduire Aden Arabi, récit du voyage du jeune Nizan dans la péninsule arabique, au retour duquel il donnera une expression politique à sa colère en entrant au Parti communiste. Mais au récit de la conversion, la préface de Sartre ne manque pas d'adjoindre le récit de la rupture. À l'annonce du pacte germano-soviétique, Nizan, on le sait, quittera le parti, devenant, selon la belle formule de Sartre, un communiste solitaire, bientôt calomnié par ses camarades. Mais le portrait se renverse en autoportrait. Sartre se présente aux jeunes gens comme un vieillard d'une province attardée, appartenant à une génération de grands-pères, qui, pour avoir multiplié les compromissions avec le parti communiste, n'a de leçons à donner à personne. Sartre s'accuse, en somme, d'avoir répété la tragédie de Nizan avec un quart de siècle de retard, en devenant lui-même compagnon de route au milieu des années 50. Déplaçant la scène autobiographique de l'entre-deux-guerres à l'après-guerre, Merleau-Ponty vivant met à son tour l'accent sur les décalages de Sartre face au communisme. C'est au contact du marxisme attentiste, sévère et désillusionné de Merleau-Ponty, auquel il a confié la libération de la rédaction des historiopolitiques des temps modernes, que Sartre prend conscience des tours et des détours de l'histoire, de cette historicité primordiale qui ne cesse de déjouer la volonté des acteurs. Mais en pleine guerre de Corée, devant la répression dont sont victimes les communistes, Sartre rompt avec la politique de non-alignement exposée dans Humanisme et Terreur. À Merleau-Ponty qui écrivait « On ne peut pas être anticommuniste, on ne peut pas être communiste », Sartre répond « formule aussi est connue, un anticommuniste est un chien, je ne sors pas de là, je n'en sortirai jamais. La rupture est inévitable. Je croyais rester fidèle à sa pensée de 1945 et qu'il l'abandonnait. Il croyait rester fidèle à soi-même et que je le trahissais. Il prétendait poursuivre son œuvre, il m'accusait de la ruine. Comme la fiévreuse préface à Aden Arabi, comme le récit autobiographique des mots, prolongeant un débat entre Sartre et Sartre à travers le passé, le présent et les autres, cette oraison funèbre, Merleau-Ponty vivant, met en relief les chassés croisés de Sartre avec ce que Merleau-Ponty appelait la vie communiste. Si le cycle autobiographique de Sartre est hanté par le communisme des autres, celui des soviets de 1917, celui de Nizan pendant l'entre-deux-guerres, celui de Merleau-Ponty à la Libération et à travers eux, celui du Parti communiste français, il ne l'est pas moins par le thème de l'amitié, qui va bien au-delà de la seule référence à la camaraderie des militants. Quelques mois avant sa mort, dans la préface à son recueil d'essais intitulé « Signes », Merleau-Ponty avait souligné la fonction dialectique de l'amitié dans le portrait de Nizan, qui nouait la connaissance de soi et la connaissance de l'autre, sans cependant dispenser ni du malentendu ni de la mésentente. Merleau-Ponty écrivait « Ce qui donne au récit de Sartre sa mélancolie, c'est qu'on y voit les deux amis apprendre lentement des choses que, dès le début, ils auraient pu apprendre l'un de l'autre. » Un an plus tard, le tombeau de Merleau-Ponty s'ouvrira par ces mots. « Que d'amis j'ai perdu qui vivent encore. Ce ne fut la faute de personne, c'était eux, c'était moi. L'événement nous a fait rapprocher, il nous a séparés. » Et Sartre laissera entendre encore, quelques pages plus loin, comme s'il répondait à Merleau-Ponty, que l'on ne peut en effet acquérir un savoir sur soi sans élucider l'œuvre de l'ami. Il n'en faut point douter. Ses lecteurs peuvent le connaître. Il leur a donné rendez-vous dans son œuvre. Chaque fois que je me ferai son lecteur, je le connaîtrai, je me connaîtrai mieux. La pratique autobiographique de Sartre suggère donc que la capacité à l'autoréférence, qui permet non seulement de parler de soi, mais de rendre compte de soi et de ses actions, dans une perspective politique, à plus forte raison dans une perspective communiste, s'ancre dans la relation privilégiée à l'autre qu'est l'amitié. La reconnaissance de l'autre apparaît comme un passage obligé de la narration de soi, comme si la vérité du sujet se trouvait hors de lui, comme excentrée par la réciprocité des amis. Conformément à l'ontologie marxiste de la réalité sociale, qui est fondamentalement relationnelle, l'autobiographie sartrienne repose sur le principe que le sujet ne peut reconstituer sa propre vie qu'à condition de la reconnaître impliquée dans la vie des autres. Si la nature relationnelle de toute subjectivité manifeste l'aliénation originaire des hommes, qui sont dès leur naissance assujettis au monde social, l'implication de la connaissance de soi et de la connaissance de l'autre rend pensable chez Sartre une communauté des égaux, qui accomplirait la promesse de l'amitié que la critique de la raison dialectique, comme je le dirai un peu plus loin, associe à la fraternité révolutionnaire. Au seuil des années 60, donc, après sa rupture avec le Parti communiste, Sartre s'approprie, c'est du moins ce que je voudrais présenter, le thème de l'amitié, à la fois pour arracher son autobiographie à ce qu'il appelle l'atomisme bourgeois, qui réduit la société à un rassemblement sériel où chacun est séparé de soi et des autres, et pour y inscrire l'exigence d'un communisme qu'il voudrait étranger au pouvoir, extérieur aux institutions, au sein duquel la liberté de chacun serait garantie par la réciprocité de tous. Pour comprendre la pratique autobiographique de Sartre et repérer le nouage singulier qu'elle opère entre le communisme et l'amitié, il faut rappeler la théorie matérialiste de la subjectivité élaborée dans Question de méthode et systématisée plus tard dans L'idiot de la famille. L'inspiration marxiste, la méthode biographique de Sartre, met en lumière, au cœur de toute subjectivité, une dialectique d'assujettissement et de subjectivation qui place l'individu au croisement d'un double processus de constitution et de personnalisation. La constitution s'opère dès la première enfance, sous le prisme des structures familiales qui réfractent les contradictions du monde social. Dans les violences du dressage et l'égarement de la bête dressée, écrit Sartre, l'enfant émerge peu à peu comme un être constitué. Mais à cet enlisement natal réplique bientôt une subjectivation, par laquelle le conditionnement abstrait du sujet se trouve dépassé sous le mode de la personnalisation. S'invente alors une manière de vivre, un style de vie, aurait dit Merleau-Ponty. Peu à peu, la subjectivité se singularise à travers la praxis. En s'appropriant le monde extérieur, elle se transforme d'être constitué en être constitué. Dans la fable dialectique des mots, je reprends l'expression de Philippe Lejeune, dans la fable dialectique des mots, la division du texte en deux parties correspond précisément à cette distinction entre assujettissement et subjectivation. Lire détaille la constitution de Sartre, qui intériorise le rôle que lui impose la comédie familiale et la comédie de la culture. Écrire relate sa personnalisation, c'est-à-dire l'appropriation concrète de détermination à l'origine de son idéalisme éthique, dont il mettra longtemps à se défaire. Parce que la personnalisation de la subjectivité s'effectue dans les limites d'une situation imposée du dehors, Sartre considère non seulement que l'aliénation précède chronologiquement la construction de soi, mais qu'elle en est même la condition de possibilité. L'assujettissement du premier âge est le fond obscur de toute subjectivation, selon Sartre, et l'enfance, même heureuse, reste le lieu d'une dépossession primitive. Dans les mots, Sartre traduit cette intériorisation du dehors en une hantise qui mêle la voix des morts et des vivants et qui persiste la vie durant. Un exemple parmi d'autres. La voix de mon grand-père, cette voix enregistrée qui m'éveille en sursaut et me jette à ma table. Je ne l'écouterais pas si ce n'était pas la mienne, si je n'avais entre 8 et 10 ans repris à mon compte, dans l'arrogance, le mandat soi-disant impératif que j'avais reçu dans l'humilité. Cette temporalité inversée qui leste la subjectivité d'une histoire sédimentée, antérieure à la naissance, et qui reproduit un assujettissement originaire, Sartre la reconnaît aussi dans la vie de ses amis. Nisan, écrit-il, déchiffrait ce présent laborieux, désenchanté, troué par de brèves exaltations, à la lumière sinistre d'un avenir qui n'était autre que le passé de son père. Obsédé par le paradis perdu de son enfance, Merleau-Ponty découvrait le sens de ce qui se passe dans ce qui s'est passé, et finalement faisait de l'inventaire et du constat une prophétie. Si l'on suit ça, le narrateur de l'autobiographie s'efforce de rendre compte d'une histoire qui n'est jamais pleinement la sienne. L'histoire d'une vie est l'effet d'une préhistoire, à la fois antérieure et extérieure à celui qui se raconte. C'est ce que rappelle la préface au Prêtre d'André Gorz, en 1958, qui met en lumière l'aliénation originaire de la subjectivité. Longtemps avant notre naissance, écrit Sartre, avant même de nous avoir conçus, les nôtres ont défini notre personnage. On a dit de nous « il » des années avant que nous puissions dire « je ». Nous avons existé d'abord comme des objets absolus. À travers notre famille, la société nous assignait une situation, un être, un ensemble de rôles. Les contradictions d'histoire et les luttes sociales déterminent d'avance le caractère et le destin des générations à venir. Or, c'est cette emprise du passé sur le présent que la narration de soi, chez Sartre, a vocation à renverser. En tant que pratique de soi, la véridiction sert à conformer sa conduite éthique à ses engagements politiques, à concilier le gouvernement de soi et le gouvernement des autres, mais surtout à reconnaître la part des autres en soi. En effet, si la subjectivité émerge à la faveur de l'intériorisation du monde social, l'autobiographie ne saurait en retracer le devenir sans dissoudre l'intériorité individuelle dans l'extériorité des structures objectives et des conditions matérielles à son origine. En rapportant la constitution de la subjectivité au dehors qui la fonde, l'autobiographie, selon Sartre, a pour effet d'évider l'individualité de tout contenu propre, de la révéler en quelque sorte sans qualité, de la restituer à son indétermination première, au risque de la confondre carrément avec le monde social dont elle est issue. L'écriture de soi apparaît ainsi comme un exercice ascétique, par lequel un individu se raconte, moins pour se connaître lui-même, non seulement pour se connaître lui-même, mais pour s'abolir en tant qu'individu, c'est-à-dire comme porteur d'exceptionnalité. Et c'est à la lumière de cette destitution de soi qu'il faut entendre la célèbre clausule des mots. Une fois sa narration achevée, l'autobiographe se manifeste sous une forme générique, sans qualité, dépouillé de ses particularités individuelles, délesté des marqueurs de sa singularité, Sartre écrit comme un enfant qui vient de naître, ou ailleurs, comme un unique n'importe qui. La trahison, érigée en principe éthique, est le moteur de cet exercice qui frôle l'entreprise de désubjectivation. Je devins traître et je me suis resté, rappelle Sartre à la fin des mots, qui renchérit dans Merleau-Ponty vivant, s'il faut trahir, comme a dit Nisan dans Les Chiens de garde, que ce soit le plus petit nombre, au profit du plus grand. Or, le plus petit nombre, chez ça, c'est toujours l'individu, le plus petit dénominateur commun de la bourgeoisie qui sépare de soi et des autres. Mais Sartre n'ignore pas que cette négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous ne peut produire qu'une universalité abstraite, purement négative, obtenue par soustraction des particularismes, par l'éradication des distinctions. La contestation de soi par soi, la trahison de soi par soi, ne suffit pas à instituer la communauté des égaux. L'autobiographe, affranchi de son individualité par l'autocritique, reste seul parmi ses semblables, isolé dans une série inerte, coexistant passivement avec ses contemporains. Et comme l'écrit Sartre au sujet de la rupture de Nisan avec le parti, un communisme solidaire est perdu. Du point de vue de la dialectique de la subjectivité, qui donne sa cohérence au cycle autobiographique, l'écriture des mots constitue donc un moment négatif, insuffisant en lui-même, qui appelle une relève politique, un dépassement de l'universalité abstraite en une universalité concrète. Pour échapper à l'atomisme bourgeois, une subjectivité doit se lier à d'autres subjectivités, et pour s'affranchir de son assujettissement, faire l'épreuve du rassemblement en intériorité. Autrement dit, seule l'invention de l'être en commun peut renverser l'aliénation de l'être social et donner accès pleinement à la vie communiste. Un passage des mots qui reprend le vocabulaire de la critique de la raison dialectique pour distinguer les rassemblements sériels et les groupes en fusion évoque ce passage d'une socialisation première qui est signe d'une dépossession originaire à une socialisation seconde comme conquête de l'égalité. La scène, fortement symbolique, se déroule sur la place du Panthéon, entre l'hôtel des grands hommes et la statue de Jean-Jacques Rousseau, chargée des souvenirs de la période révolutionnaire. À l'écart de la comédie familiale, le jeune Sartre, dans cette scène, déjà saisi par les vertiges de la contingence, découvre soudain sa nécessité, au milieu des cris de ses camarades de lycée, parmi lesquels le petit Nizan, et les jeux de la bande, de la petite bande, lui procurent une première expérience. C'est la critique de la raison dialectique illustrée par le peuple de Paris, prenant la Bastille. Je cite. Nos jeux nous surexcitaient, comme disaient nos mères, et transformaient parfois nos groupes en une petite foule unanime qui m'engloutissait. Mais nous ne pûmes jamais oublier longtemps nos parents, dont l'invisible présence nous faisait vite retomber dans la solitude en commun des colonies animales. Sans but, sans fin, sans hiérarchie, notre société oscillait entre la fusion totale et la juxtaposition. Ensemble, nous vivions dans la vérité, mais nous ne pouvions pas nous défendre du sentiment qu'on nous prêtait les uns aux autres et que nous appartenions chacun à des collectivités étroites, puissantes, primitives, qui forgeaient des liens fascinants, se nourrissaient d'erreurs et nous imposaient leur arbitraire. L'expérience enfantine du groupe en fusion, même si elle donne le sentiment de vivre dans la vérité, reste incomplète du fait que les lycéens ne parviennent pas à s'extraire des collectivités étroites, puissantes, primitives que sont leurs familles et à se défaire des mythes fascinants de la bourgeoisie qu'elles leur ont imposés. La solitude en commun de la vie bourgeoise, si l'on en croit le cycle autobiographique, Sartre ne parviendra à s'en affranchir vraiment qu'à la faveur de la réciprocité vécue au sein du groupe Socialisme et Liberté, où il retrouve Merleau-Ponty après une séparation de plusieurs années dans le contexte de la résistance. Contexte de la résistance que Sartre prend soin de décrire comme une amitié nationale qui préférait tout d'avance en chacun pourvu qu'il détestât les nazis. La collectivité historique triomphe dans la résistance de la sérialité en resserrant ses liens contre l'ennemi et en prenant conscience d'elle-même comme unité d'individus solidaires. Les actions concertées et la peur de l'ennemi dévoilent à Sartre les relations de réciprocité à travers lesquelles les multiplicités groupées, normalement maintenues dans l'impuissance sous l'effet de la confiscation institutionnelle de la politique, peuvent conquérir leur égalité, leur liberté, en s'inventant collectivement un être en commun. Mais Merleau-Ponty, précise ça, l'avait précédé dans cette découverte, puisqu'il avait rencontré, lui, le marxisme avant la guerre et éprouvé dans le communisme, en marge du parti cependant, dont il refusait de joindre les rangs en raison des procès de Moscou, l'unité future d'une société sans classe et en attendant une chaude amitié de combat. Par un autre de ces contretemps qui ponctuent la vie communiste, Sartre se présente au début des années 60, là où se trouvait, selon lui, Merleau-Ponty. Sartre prétend se trouver au début des années 60, là où Merleau-Ponty se trouvait, selon lui, à la fin des années 30, après l'épisode du compagnonnage de route, interrompu par la répression soviétique de la révolte hongroise. Sartre refuse la passivité sérielle des organisations communistes et trouve refuge en attente d'une société sans classe, dans l'expérience de l'amitié, que l'éthique d'Aristote, il faut s'en rappeler, considérait déjà comme l'expression la plus haute de la justice. Dans la critique de la raison dialectique, rédigée en pleine guerre d'Algérie, entre une première version des mots et la préface à Aden Arabi, L'amitié est d'ailleurs décrite comme une variante de la fraternité politique, une libre spécification de cette structure première, précise Sartre. Grâce à la réciprocité que provoque le dépassement des rassemblements sériels, chaque subjectivité saisirait sa propre naissance d'individu commun et découvrirait en même temps le droit de tous à travers chacun, sur chacun. C'est le commencement de l'humanité, insiste Sartre dans la critique de la raison dialectique. Dans la fraternité, continue-t-il, nous sommes les mêmes parce que nous sommes sortis du limon à la même date, l'un par l'autre, à travers tous les autres. À ce titre, la théorie des ensembles pratiques, c'est le sous-titre de la critique de la raison dialectique, à ce titre, la théorie des ensembles pratiques répond à la théorie de la subjectivité. La fraternité politique transforme le monde social en renversant ce qui était un pouvoir d'aliénation en une puissance d'émancipation. À la subjectivité, à la fois constituée et constituante, dont question de méthode décrivait la Genèse, la critique de la raison dialectique reconnaît une capacité à s'auto-constituer par l'invention de l'être de groupe. Le cycle autobiographique apparaît comme la transposition fidèle de cette anthropologie philosophique. L'écrivain qui, dans les mots, s'est dépris de lui-même au nom du communisme, dépasse l'universalité négative de son individualité générique grâce aux obligations mutuelles de l'amitié dont il prend conscience. Il se constitue en individu commun, affranchi de la sérialité qui le séparait de lui-même et des autres, à travers le serment de l'amitié. Autrement dit, si l'autocritique des mots raconte comment Sartre s'est fait le contemporain de la Révolution d'octobre, le cycle autobiographique dans son ensemble attribue cette conversion tardive au communisme, non au gouvernement de soi, mais au communisme des autres, en l'occurrence au communisme des amis auprès desquels Sartre a fait l'apprentissage de la vie politique. La communauté des égaux, dont son communisme porte l'utopie, Sartre ne la tient ni d'un événement historique dont il aurait médité les leçons, la Révolution française, ni d'une doctrine philosophique qu'il aurait assimilée, le matérialisme historique de Marx, mais plus essentiellement, c'est du moins ce qui me semble se dégager du cycle autobiographique, de l'expérience de l'amitié, dont justement la préface d'Aden Arabi et Merleau-Ponty vivant portent témoignage. Si cette expérience de l'amitié n'est jamais préservée du malentendu et du mensonge, l'événement menaçant toujours de séparer ce qui la réunit, l'égalité des amis porte, selon Sartre, l'exigence communiste au-delà d'elle-même, en l'associant à une mise en commun des existences qui ignore la distinction des gouvernés et des gouvernements. Comme le suggère Sartre dans son hommage à Merleau-Ponty, la puissance de l'amitié manifeste une exigence de justice qu'aucun pouvoir politique ne pourrait satisfaire. Il écrit « Nous sommes tordus. Les liens qui nous unissent aux autres sont faussés. Il n'est aucun régime qui par lui seul suffira à les détordre. Mais peut-être que les hommes qui viendront après nous, tous les hommes ensemble, auront la force et la patience d'entreprendre ce travail. » Au croisement du communisme des autres et du gouvernement de soi, le cycle autobiographique de Sartre laisse entendre que, dans la continuité de l'éthique aristotélicienne, qu'il ne saurait exister de communauté authentique sans amitié. Sans doute d'ailleurs est-ce pourquoi, d'un point de vue strictement éditorial, Sartre se refuse à publier les mots, dont l'essentiel était écrit au milieu des années 50, avant que ne paraissent les portraits des intercesseurs de sa vie communiste. Avant de rendre compte de soi, il fallait rendre compte de ce qui, en soi, appartient aux amis. Voilà.